l'un des hommes clés du régime iranien, abattu par une frappe américaine en Irak. Le Parlement irakien qui, dans la foulée, demande aux soldats américains de partir. Et parallèlement, l'Iran qui annonce qu'il va passer à la vitesse supérieure pour développer son programme nucléaire. Voilà très schématiquement résumé l'évolution de la crise américano-iranienne durant ces trois derniers jours. Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. L'Iran a pris un énorme coup en perdant son général Qassem Soleimani vendredi dernier. Mais au final, si les soldats américains finissent par quitter l'Irak, hein, c'est pas encore acté, ce sera une victoire pour Téhéran.
Oui, parce qu'il aurait fallu ajouter un adjectif, un gros coup symbolique parce que il s'agissait d'une personnalité charismatique, populaire d'ailleurs dans son pays, très emblématique. On avait l'impression de toucher à la tête le régime. Mais sur un plan stratégique, c'est-à-dire quelles sont les conséquences d'un tel meurtre? Le gain pour les États-Unis est extraordinairement hypothétique, parce que ce n'est pas en abattant un homme que l'on change un système. Et d'autre part, et surtout, parce que toute une série de conséquences sont en train de se profiler. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette coalescence au Moyen-Orient autour du régime iranien est en train de se défaire à une vitesse grand V. Regardez le vote du Parlement irakien pour évacuer les troupes étrangères, c'est-à-dire enfin les troupes américaines. Regardez aussi toutes ces factions irakiennes qui, même dans le monde chiite, étaient de plus en plus critiques à l'égard de l'Iran. Regardez ces mouvements sociaux qui étaient en Irak en train de faire ce que Washington n'avait pas pu faire, c'est-à-dire porter un coup sévère à la présence régionale de l'Iran. Ils sont comme effacés devant une sorte d'indignation partagée. Et le ministre qatari des Affaires étrangères était à Téhéran. On sait, on murmure, mais c'est plus qu'une rumeur, que des pourparlers étaient en cours entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour diminuer la tension. Bref, on a le sentiment que l'Iran est en train de se refaire une force dans la région, évidemment, au péril de la vie d'un de ses dirigeants. Mais les États-Unis, dans cette affaire, sont en train de perdre des points à vitesse grand V, avec le Qatar, je signalais tout à l'heure, avec leur présence en Irak et bien d'autres éléments encore.
Et pour revenir à ce vote d'hier au Parlement irakien, vous pensez que le gouvernement irakien va accéder à cette demande et va dire oui, les 5200 soldats américains qui sont encore sur le sol irakien doivent partir?
Oh, lorsqu'on entendait hier le Premier ministre irakien, on comprenait que c'était presque demandé par le gouvernement irakien, ce qui d'ailleurs est sans surprise, parce que en Irak, l'actuel gouvernement correspond à la sensibilité la plus proche de l'Iran. Oui, le processus va se faire. D'ailleurs, pour une raison côté irakien qui est beaucoup plus prosaïque, qui est le risque de voir l'Irak devenir le nouveau champ de bataille de l'affrontement entre l'Iran et les États-Unis. Donc plus il y aura de soldats américains en Irak, plus la situation sera périlleuse pour l'Irak et pour le peuple irakien.
Et les sunnites et les kurdes, est-ce qu'il faut entendre leur voix en Irak?
Alors, vous savez que très majoritairement, ils étaient absents du Parlement
ils
hier.
Ils n'ont pas participé au vote.
Ils n'ont pas voté. Ceci dit, ils se font extraordinairement discrets. On voit mal dans le contexte actuel les partis sunnites se ranger derrière la bannière étoilée.
L'autre conséquence de ce vote, c'est la coalition anti-Daesh qui a annoncé aussi suspendre ses opérations en Irak, car elle se consacre, dit-elle, désormais totalement à la protection de ses bases, des bases irakiennes qui accueillent ses troupes. Ça veut dire que le groupe État islamique va lui aussi pouvoir en profiter?
Il semblerait, d'ailleurs la prudence est excessive, il est clair que la sensibilité que représente Daesh, les organisations clandestines, les réseaux qui leur servaient de soubassement n'ont pas disparu. Et effectivement, toute fièvre au Moyen-Orient, quelle qu'en soit la forme, est un terreau extrêmement favorable pour Daesh et d'une façon générale pour toute forme de radicalisme islamiste. Bien sûr que Daesh va en profiter, exactement comme il ne faut pas oublier que son apparition ou l'apparition de son ancêtre, de ses ancêtres, était liée à l'intervention américaine en Irak. Vous savez, il y a une malédiction sur la puissance dans tout ce grand Moyen-Orient. C'est étonnant que M. Trump n'en ait pas eu l'intuition.
Vous parlez de fièvre, vous avez utilisé ce mot-là. Vous craignez que cette crise n'embrase tout le Moyen-Orient ou faut pas
faut parce pas que crier vous au pensez qu'il n'est pas embrasé actuellement. Disons que c'est l'intensité qui va changer, mais les paramètres restent les mêmes. Et d'un certain point de vue, tout cela, c'est-à-dire toute cette phase, toute cette séquence, remontons pas trop loin, a débuté le jour où M. Trump a déchiré le traité du 14 juillet 2015 sur les nucléaires iraniens, qui crée une situation d'équilibre instable et fragile, certes, mais d'équilibre dans cette région du monde. C'était presque providentiel. À partir du moment où on y touchait, on a assisté à une cascade d'événements. Alors oui,
Et le dernier événement, hier soir, l'Iran qui annonce qu'il ne limitera plus le nombre de ses centrifugeuses.
Tout à fait.
Donc là, c'est vraiment la fin de l'accord ?
Ah oui, totalement. De toute façon, en tous les cas, vous savez, la symbolique est très importante en même temps dans cette région et dans cette affaire. C'est-à-dire que l'acte contre le général Qassem Soleimani était un acte symbolique. Donc l'Iran va répondre par un acte spectaculaire et symbolique, donc ça va effectivement accroître la fièvre, et effectivement les effets d'annonce deviennent des effets majeurs. Il s'agit de démontrer que la puissance américaine n'a plus la capacité de faire la pluie et le beau temps dans la région.
Qui peut calmer le jeu ?
Je dirais la sagesse des hommes. Donc, pour l'instant, personne. Pour l'instant, personne. Le seul élément, je dirais, optimiste, rassurant que l'on puisse avoir en tête, c'est que, stratégiquement, la guerre ne serait une guerre totale, explicite, si vous voulez, ne serait profitable à personne. Et que, par ailleurs, il y a, et c'est peut-être une façon de répondre à votre question, mais je me fais très très prudent, il y a une puissance dans la région qui a surtout intérêt à que tout cela ne dérape pas trop au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est la Russie. La Russie est parmi les puissances la seule véritablement bénéficiaire de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, enfin actuellement depuis quelques années. Elle n'a pas intérêt à voir ses investissements s'effondrer par une action militaire majeure.
Merci pour votre analyse, Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Vous étiez l'invité du 5-7.